Gen Z, une jeunesse hypersensible.
Chronique, débat et interview sur la santé des jeunes.
L'émission des étudiants de Sorbonne Paris Nord.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris pour notre émission Gen Z, une jeunesse hypersensible. Une émission spéciale préparée par les étudiants de la web radio 13e Monde de l'Université Sorbonne Paris Nord. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Spotify pour écouter l'ensemble de nos podcasts et nous suivre sur notre compte Instagram @13e Monde. Je m'appelle Redouane et je vais vous accompagner tout au long de cette émission en compagnie de mes camarades. La santé des jeunes, leur bien-être, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous ici. D'ailleurs, on nous qualifie souvent de jeunesse hypersensible et égocentrique. Pourtant, il y a de quoi s'inquiéter, vous trouvez pas ? Pollution, réchauffement climatique, conflits internationaux, inflation, et j'en passe, autant de menaces sur notre quotidien et notre avenir. Face au malaise de la société, comment réagir ? Les jeunes se tournent de plus en plus vers différentes thérapies, les pratiques sportives intensives ou plus simplement une routine healthy. Ces solutions contribuent-elles vraiment au bien-être et à la santé des jeunes ? Noé approfondira dans un instant cette question dans son édito. Ensuite, la revue de presse de Guillaume évoquera les causes du malaise des jeunes, notamment l'addiction aux réseaux sociaux. Mais est-ce vraiment la solution ? Est-ce que la solution serait-elle d'aller faire du sport ? Masten et Elio nous en parleront dans leur chronique. Ou bien suffit-il simplement de prendre soin de soi, comme nous le recommanderont Emma et Nishta dans la chronique « Minute bien-être ». Ensuite, Iptiel témoignera de son parcours psychothérapeutique avant le grand débat qui portera sur les différences de sensibilisation à la santé en fonction du genre chez les jeunes. Ce débat sera animé par Souleyman avec la participation de Fanta, David, Anaël et Adam. Mais du coup Noé, tu peux nous expliquer comment nous en sommes venus à parler de ce sujet ?
Gen Z, une jeunesse hypersensible ?
L'émission des étudiants de Sorbonne Paris Nord.
Bonjour à toutes et toutes nos auditrices, c'est un plaisir de vous parler. Alors, tout d'abord, on a mis un certain temps à se mettre d'accord sur un sujet. Et puis, nous avons fait le constat suivant. Le malaise sociétal, la fatigue émotionnelle, le mal-être au fond de soi, nous l'avons toutes et tous vécu. Différemment, mais autour de la table de 13e Monde, on a dû faire face à ces difficultés. Guillaume, que disait ta grand-mère déjà ?
Elle disait qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Elle disait qu'il ne faut pas trop y penser.
Bon... Les adolescents sont quand même le groupe social le plus solitaire de tous. La pollution endommage les poumons des nourrissons. Le désert médical assèche la santé des Français et plus encore hors de la région parisienne. Certains doivent parcourir une cinquantaine de kilomètres pour trouver un médecin. En pleine hémorragie, un ami a préféré cautériser sa plaie au chalumeau plutôt que d'attendre les secours qui tardaient. La dépression infantile est plus haute que jamais. 62% des 18-24 ans déclarent se sentir régulièrement seuls, signe d'une épidémie de solitude chez les jeunes. La crise sanitaire a provoqué une hausse des symptômes dépressifs chez les jeunes. En mai 2020, 22% des 15-24 ans déclaraient des signes évocateurs d'un état dépressif, contre 10% en 2019. Selon l'adresse, 5521 patientes entre 10 et 14 ans ont été hospitalisées pour gestes auto-infligés et tentatives de suicide, en France en 2022. C'est plus du double qu'en 2012. Eh bien, mamie, nous avons choisi d'y penser trop, de faire face à nos problèmes plutôt que de les ignorer, pour tous ensemble lever les tabous et trouver des solutions.
Merci à toi Noé. Ma grand-mère à moi disait que l'espoir fait vivre, donc moi je vais partir plutôt sur celle-là. En attendant, Guillaume va nous faire sa revue de presse sur les différents malaises de notre génération et les différentes addictions aux réseaux sociaux.
Merci Redouane. Ces dernières années, la santé mentale des jeunes s'est fortement dégradée, avec une hausse de 30% de patients en 15 ans. Dans un article publié par Le Monde le 11 octobre dernier, il est dit que la solitude touche un jeune sur quatre et qu'elle constitue l'une des principales sources de vulnérabilité. La dépendance aux écrans est un facteur majeur, notamment l'addiction aux réseaux sociaux qui renforce le repli social. Enfin, beaucoup de jeunes ont du mal à exprimer leur mal-être. Un sur quatre déclare rester silencieux à ce sujet.
Est-ce qu'il y a d'autres causes qui dégradent la santé mentale des jeunes ?
Eh bien oui. Euronews, dans un article publié le 30 juin, reprend les conclusions d'experts de l'OMS. Actualité anxiogène, situation économique inquiétante et conflits géopolitiques sont de forts facteurs de fragilité. Le média insiste sur le besoin d'accompagnement professionnel, tandis que certains jeunes se tournent vers l'intelligence artificielle pour trouver du soutien émotionnel. L'OMS demande aux États d'investir plus dans les systèmes de santé mentale et d'adapter leurs programmes pour mieux répondre aux besoins des jeunes, notamment sur la solitude. Euronews cite l'exemple de la Suède qui investit 30 millions d'euros dans des programmes de sociabilisation.
Et les réseaux numériques dans tout ça ?
Santé Magazine, dans un article du 30 juin, pointe le manque de contrôle des plateformes. Le magazine rapporte les propos de Marc Dulert, président de la fondation Kids Rights, qui appelle à des réponses politiques fortes envers ces plateformes. Voilà ce qu'il dit.
Les gouvernements doivent dépasser les politiques réactives et adopter des stratégies globales qui s'attaquent aux causes profondes de cette épidémie de santé mentale. Cela implique des évaluations d'impact obligatoires sur les droits de l'enfant pour toutes les plateformes numériques, des algorithmes transparents conçus pour le bien-être de l'enfant et des partenariats publics-privés solides qui privilégient la protection plutôt que le profit.
Quelles sont les conséquences de l'usage excessif des réseaux sociaux pour les jeunes ?
Elles sont nombreuses, Redouane. Troubles de la concentration, mauvaise image de soi, solitude, pression sociale et exposition à la violence, selon Brut, dans un écran, un signal d'alarme du 11 juin.
Mais alors pourquoi les jeunes vont sur les réseaux sociaux ?
Parce que les réseaux sociaux s'apparentent à un refuge, à une zone de repli qui permet d'échapper à certaines pressions. Mais paradoxalement, ce refuge accentue aussi leur mal-être. Les jeunes en ont conscience et déclarent eux-mêmes que leur usage des réseaux sociaux nuit à leur santé mentale. Alors à tous les jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas, prenez la parole parce que vous aussi, vous pouvez être écoutés.
Merci beaucoup Guillaume.
Gen Z, une jeunesse hypersensible.
L'émission des étudiants de Sorbonne Paris Nord.
Parmi toutes ces solutions thérapeutiques, il existe une assez facile d'accès, le sport. Donc je laisse place à Masten et Elio pour leur chronique.
Alors bonjour à tous, bonjour à Redouane, bonjour aux invités ainsi qu'aux auditeurs. Alors ma première question elle est vers toi Redouane. Alors déjà toi-même, est-ce que tu vas à la salle régulièrement ?
Ça m'arrive plus trop maintenant régulièrement, mais j'y suis allé un moment.
Et dis-moi, t'as pas remarqué quelque chose d'inhabituel ? Est-ce que tu vois de plus en plus de jeunes de notre âge quand même qui y vont de plus en plus ?
Franchement, pour ma part, je vois que des jeunes de notre âge.
Ah, merci. Donc ça confirme le constat. Je suis pas fou. Moi aussi, c'est ce que j'ai constaté. Et je vous ai ramené Elio, quelqu'un qui aime bien les chiffres. Il va vous parler de chiffres là. Il va vous faire un petit peu peur, mais vous inquiétez pas.
En effet, le constat il est sans appel. Donc concernant l'activité physique, selon l'OMS, donc on a une majorité de nos jeunes, près de 81% des adolescents dans le monde. Qui ne respectent pas les recommandations minimales en matière d'activité physique.
Ah ouais, donc on meurt tous en fait avec toi.
Non, on va quand même pas tous mourir, mais c'est une situation qui soulève de vraies inquiétudes pour leur développement physique et également leur développement mental. Nous avons vu une augmentation notable des indicateurs de mal-être chez les jeunes et notamment grandement chez les jeunes adultes. Selon le ministère de la Santé, plus d'un jeune adulte sur deux, soit 55% des 18-24 ans, a déjà été affecté par un problème lié à la santé mentale. Ce sont des chiffres qui nous rappellent l'ampleur des besoins en accompagnement et en solutions concrètes et en bien-être.
Et quand tu as avec tes chiffres, là, ils vont fuir, là, les auditeurs.
Ouais, c'est vrai que là, j'enchaîne les chiffres, ça vous fait un peu peur, mais c'était le dernier. Donc face à ces statistiques, qui sont le reflet d'une jeunesse en quête d'équilibre, nous devons explorer toutes les pistes thérapeutiques qui peuvent apporter un soutien. C'est dans ce contexte que nous allons aborder une solution qui gagne en reconnaissance scientifique et également sociale. Et toi, Masten, tu vas maintenant nous montrer comment le sport est en train de s'imposer, non pas comme un simple loisir, mais comme un véritable allié, une des thérapies les plus efficaces pour retrouver un état de bien-être.
Alors c'est vrai, l'activité physique est notre meilleure carte à jouer. Il y a un consensus scientifique clair, le sport est la solution directe et la plus prouvée pour compenser ces chiffres négatifs que tu as évoqués. Vous avez sûrement vu le reportage marquant de l'émission Quotidien, diffusé le 18 septembre 2025 récemment. On y voyait des files d'attente interminables devant des salles de sport, remplies de jeunes de 18 à 25 ans, prêts à aller pousser de la fonte. Mais on va pas se mentir, la salle de sport c'est devenu le nouveau QG de plusieurs d'entre nous. Et les chiffres ne montent pas. Contrairement aux chiffres que tu as évoqués tout à l'heure, où tu as fait peur à nos auditeurs, selon l'étude de l'INGP, 76% des 15 à 24 ans en France font régulièrement du sport et la musculation est l'une de leurs activités favorites.
Ah bah ça va en fait, en France, on n'est pas les pires.
Non, on est loin d'être les pires, mais la question c'est pourquoi cet engouement ? Tout d'abord le prix, donc avec un abonnement à 20€ par mois, c'est assez accessible.
Enfin bon, 20€ dans la France de Macron, même ça c'est pas facile.
Hein. Y a pas tort, on va pas se mentir. Mais c'est quand même, ça reste accessible pour un jeune travailleur. Et deuxième point, c'est l'influence, ou ce qu'on pourrait appeler l'effet TikTok. Donc on scroll, on voit des transformations physiques plus dingues les unes que les autres, et on veut tous la même chose. Alors donc on va pas cracher dans la soupe si notre génération prend conscience de l'importance du fait de régulièrement bouger et oui, d'éviter la sédentarité, même si cela passe par soulever des poids. Et faut pas oublier, le sport c'est un antidépresseur naturel et efficace, ça vide la tête, ça structure le quotidien, et ça apprend la discipline. Jusqu'à là, tout va bien, sauf qu'il y a un mais. Et ce mais, c'est lorsque le sport devient un problème. À force de se comparer aux influenceurs fitness sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, qui sont souvent retouchés, voire peut-être dopés, eh bien les jeunes développent un complexe. C'est toujours se comparer aux autres, qui sont censés être meilleurs que nous. On se trouve toujours trop maigre, pas assez sec. On s'interdit des sorties entre potes parce qu'il n'y a pas de repas sains. Donc
ouais, enfin bon, Masten, je sais que tu vas à la salle, mais je t'ai jamais vu rater un kebab. Hein.
Bah écoute, après bon, un kebab ça va, c'est, de temps en temps ça passe. Et on culpabilise très souvent pour rater une séance, ça nous arrive. C'est là que le sport, au lieu d'être un outil de bien-être, devient très souvent une source tout simplement d'anxiété. Certains d'entre vous vont me dire que c'est tout d'abord la motivation principale qui est le problème, si c'est l'apparence. Leur motivation principale des gens qui vont à la salle, ça pose problème. Mais je vous rapporte un témoignage d'un influenceur justement qui est coach sportif dans une salle qui s'appelle Alex Villani, qui nous dit que peu importe la motivation, même si c'est l'apparence physique, ce qui compte réellement, c'est le fait que ceux qui viennent à la salle adoptent des réflexes qui vont être bons pour eux, bons pour leur santé. Eh bien, n'oubliez pas l'expression populaire, un corps sain dans un esprit sain. Merci à tous.
Merci Masten et Elio, nos sportifs du dimanche. Tout de suite, une petite pause musicale, on écouterait Where is my husband?
Husband is coming.
C'était la pause musicale avec Ray. Where is my husband?
Gen Z, une jeunesse hypersensible.
L'émission des étudiants de Sorbonne Paris Nord.
Une des premières solutions nous a été présentée, seulement il ne suffit pas seulement de soulever de la fonte pour aller mieux, on peut aussi prendre soin de soi de façon un peu plus intime à la maison. Je vous laisse maintenant avec une minute de pur bien-être avec Emma Enishta.
La minute bien-être.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Nishta, on avait envie de parler d'un sujet simple, mais essentiel. Le bien-être au quotidien. Pas besoin de grandes théories, juste des gestes qui font du bien, qui nous recentrent et nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes.
On peut commencer par le sport. Comme nos camarades l'ont expliqué tout à l'heure, bouger, c'est déjà prendre soin de soi.
Le sport permet de libérer l'esprit et d'évacuer le stress. On peut également intégrer des exercices de respiration à n'importe quel moment de la journée. Le matin pour bien démarrer, dans les transports quand on sent la pression, monter ou le soir pour décrocher. Par exemple, on peut faire la respiration 4-4-4. Inspirer pendant 4 secondes, bloquer sa respiration pendant 4 secondes, puis expirer doucement pendant 4 secondes. On répète ça 3 ou 4 fois. Et ça suffit déjà à calmer le stress.
Et puis les partiels, cela ne nous aide pas non plus à nous détendre. C'est pourquoi le bien-être ne passe pas uniquement par l'activité physique, mais on peut aussi se recentrer grâce à des petites habitudes simples.
Écouter une musique apaisante, se déconnecter à un moment des réseaux sociaux ou faire une routine de soins à la maison. Ces pratiques accessibles favorisent à la fois le bien-être intérieur et extérieur. Elles nous rappellent que se sentir bien, ça passe surtout par des moments de repos, de détente et l'attention que l'on s'accorde au quotidien.
Le bien-être, ce n'est pas seulement le sport ou la relaxation, il passe aussi par la confiance en soi. Cette confiance commence par le fait de s'accepter comme nous sommes et essayer de s'améliorer de jour en jour par divers moyens. Il y a aussi l'alimentation qui joue un rôle important, boire suffisamment d'eau afin de rester hydraté tout au long de la journée. Et bien évidemment, le sommeil est essentiel pour favoriser la récupération physique et psychologique.
À propos du tabac, Nishta, tu en dis quoi ? Même si la consommation diminue, le tabac reste un vrai frein au bien-être des étudiants, non ?
Totalement ! Fumer peut avoir des effets très néfastes, comme une baisse de concentration, une fatigue plus fréquente et même accélérer le vieillissement cutané. C'est un point qu'on oublie souvent, mais ça touche directement à la santé et le bien-être.
Donc, nos habitudes quotidiennes ont un impact direct sur notre bien-être. Alors prendre soin de soi, ça commence souvent par de petites actions simples, mais essentielles.
Au fond, le bien-être physique et mental sont étroitement liés. S'accepter soi-même, c'est parfois ce petit boost qui renforce notre confiance. Prendre soin de soi peut devenir un véritable rituel anti-stress.
Donc si je résume, il suffit de faire le miracle morning, se lever à 5h du matin, boire du matcha et hop, tout le monde devient heureux ?
Eh bien non Emma, nous vous demandons pas non plus de suivre les trends actuels, mais juste prendre un peu de temps pour soi.
Merci.
Merci.
Eh bien, merci. J'ai maintenant plein de bons conseils à appliquer. Mais je vais d'abord donner la parole à Ipchel qui va courageusement nous présenter son parcours psychothérapeutique.
Gen Z, une jeunesse hypersensible.
L'émission des étudiants de Sorbonne Paris Nord.
Merci Redouane. Effectivement, aujourd'hui, on reçoit Ipchel, étudiante en troisième année de licence information communication à l'Université Sorbonne Paris Nord. Aujourd'hui, elle est là pour nous parler de son trouble du spectre autistique. Bonjour Ipchel.
Bonjour.
Je vais tout de suite attaquer avec la première question. Quand est-ce que tu as appris que tu étais autiste ?
Alors moi, mon parcours, il est un peu différent parce que j'ai consulté quand j'avais 16 ans la première fois pour surtout un état dépressif et une dépression généralisée. Et c'est au fur et à mesure des consultations avec ma psychologue, le psychiatre, etc., qu'on a découvert qu'en fait ma dépression découlait d'un mal-être profond dû au fait que j'étais autiste. Donc ça naît surtout de ça, et c'est moi qui ai déclenché ça à 16 ans, j'ai décidé de consulter un psy, et c'est comme ça que je l'ai appris.
Suite à ça, tu as été prise en charge. Comment ça s'est passé, cette prise en charge ? Raconte-nous un petit peu.
J'ai été prise en charge par une psychologue, mais par la suite, j'ai dû faire un séjour à l'hôpital et par des psychiatres, etc. Ça a été très compliqué parce que j'ai beaucoup l'impression qu'en France, les gens, surtout, ne connaissent pas le trouble autistique. Et surtout chez la femme aussi, j'ai l'impression, parce qu'il peut se manifester différemment selon le conditionnement social genré. Du coup, je sentais vraiment que même... vis-à-vis des professionnels de santé, ceux qui étaient censés m'aider, m'accompagner et me comprendre, il y avait quand même encore ce décalage où personne ne me comprenait, donc ça a été assez compliqué de poursuivre un suivi.
Tu dis que personne ne te comprenait, mais ton entourage, eux, ils t'ont compris ou ils l'ont peut-être mal vécu ?
Pas du tout. Moi, ma famille, elle a été très dans le déni pendant très longtemps. Ça veut dire que personne ne comprenait vraiment ce que c'était. Je pense que c'était aussi beaucoup de préjugés. Et personne ici a remarqué que j'allais forcément mal. C'est très souvent venu de moi-même, parce qu'on dit souvent que les adultes, ils remarquent pas, mais aucun adulte de mon entourage a remarqué, que ce soit quand j'étais à l'école, ma famille, mes parents, quoi que ce soit. Donc quand j'en ai parlé, ça a été un choc pour beaucoup et ils n'ont pas forcément compris d'où ça venait, même si moi je pense qu'il y avait des signes avant-coureurs de tout ça.
Est-ce que c'est peut-être pas dû à un tabou autour de l'autisme en France ?
Je pense qu'il y a un tabou, pas forcément juste autour de l'autisme, mais la santé mentale déjà beaucoup. Je pense que ça va un petit peu mieux, mais il est toujours un peu ancré. Donc ouais, concrètement, c'est un très gros tabou autour de tout ça.
Et aujourd'hui, est-ce que tu vas bien, Ptiel ?
Moi, ça va très bien. Écoute, j'apprends à vivre avec. Bah, je suis à la fac, je suis en troisième année, j'ai mes copains, j'ai ma famille. Tout va pour le mieux. Je me sens beaucoup moins en décalage que je l'étais avant, mais parce que j'ai appris à m'accepter. Ça, c'est un très très long travail qui se fait sur longtemps. Tu vois, j'ai été diagnostiquée à 16 ans, maintenant j'en ai 21, ça fait bientôt 5 ans. Donc ouais, j'en ai fait du chemin, mais ça va beaucoup mieux maintenant.
Effectivement, c'est très important de s'accepter, peu importe les différences qu'on a, qu'on peut avoir. Je te remercie, Ptiel, pour ton témoignage et je renvoie la balle à Redouane.
Merci beaucoup à Ptiel et Nicolas pour ce témoignage très courageux. On a été, comme je l'ai dit au début de l'émission, on est qualifié de génération hypersensible. Je vais désormais laisser place au débat animé par Souleymane et son groupe autour de l'hypersensibilité liée à la santé mentale et aux questions de genre associées.
Gen Z, une jeunesse hypersensible.
L'émission des étudiants de Sorbonne Paris Nord.
Notre camarade Ptiel a témoigné sur son parcours de santé. C'était vraiment un témoignage émouvant. Et donc nous allons débattre de ce sujet-là, qui est un sujet important pour notre société. Mais finalement, on constate quand même un déséquilibre dans les chiffres. Et c'est pour ça qu'on va en parler avec vous, Fanta, et bien sûr Adem, et David et Anaël. On remarque des chiffres chez les jeunes, notamment la tranche d'âge des 18 à 24 ans. 76% des patients en psychologie sont des femmes. On va essayer de comprendre pourquoi les hommes, on est tout le temps déconnectés de ces sujets-là. Je commence par toi, Fanta. Comment tu peux expliquer ces chiffres ? Est-ce qu'il y a un lien avec notre éducation ? Ton parcours personnel, comment tu peux en parler ?
Alors déjà, y a aussi une majorité de psychologues femmes, 85% selon le site de psychologie, comme si les femmes n'avaient pas les capacités de faire, par exemple, je sais pas, médecine, et les hommes sont un peu exclus de la psychologie. Je prends mon exemple parce que moi, de base, je voulais faire des études de médecine et on m'a poussée vers les études de psychologie, sous prétexte que j'étais une femme. La seule branche dans la médecine dans laquelle on me voyait, c'était la pédiatrie, pour s'occuper des enfants.
Peut-être une réaction, Adam ou alors David.
Pour rebondir là-dessus, oui, c'est tout à fait correct. Les femmes sont légèrement stigmatisées vers certains métiers plutôt que d'autres. Et c'est également le cas pour les hommes, surtout notamment sur ces questions de la psychologie. Je sais par exemple que de mon côté, dans ma famille, ce serait très mal vu que je consulte un psychologue. Et même, j'ai été coupable de ça moi-même. J'ai un ami qui a récemment révélé à moi et mes amis qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait décidé de consulter un psychologue. Et notre réaction immédiate était assez étrange. On a décidé de plutôt le juger plutôt que de voir pourquoi et ce qui n'allait pas.
C'est un phénomène qui est seulement propre à notre génération, ou peut-être que même dans les générations précédentes c'était déjà le cas, et même voire pire. Qu'est-ce que tu en penses, Annaëlle ?
Moi je pense que ça a toujours existé, ce phénomène de stéréotype selon le genre, mais notre société et notre génération, la génération Z, elle est d'autant plus touchée parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont apparus, et donc il y a vraiment ce phénomène d'hyperféminité avec ce qui a été dit précédemment sur l'effet clean girl, avec le matcha, la skincare, tout ça, et on est vraiment...
Peut-être juste l'expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices pour qu'ils puissent comprendre.
Les clean girl ?
Oui.
Clean girl, c'est avoir une routine de vie qui est parfaite, aller à la salle de sport, bien manger, bien boire, tout ça healthy, tandis que pour les garçons, c'est pas du tout la même chose, c'est plus quelque chose d'un peu d'hypermasculinité, avec la musculation, comme on a parlé des salles de sport, ou encore l'effet mâle alpha, avec des personnes, par exemple, sur les réseaux sociaux comme Alex East.
Itchen.
Qui prône une culture qui est basée sur les stéréotypes, tout simplement.
Vous êtes une réaction, les garçons, sur ça ?
Ouais, bah, en vrai, elle dit la vérité. Mais après, moi, je pense quand même qu'il y a une certaine prise de conscience qui a été faite. maintenant, notre génération, on est un peu sensibilisé à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais consulter un psychologue, je pense sincèrement que ma famille, elle va mieux le comprendre qu'il y a quelques années ou qu'il y a 10 ans ou je ne sais pas. Parce que, tout simplement, il y a eu une vraie sensibilisation qui a été faite, il y a eu une prise de conscience, que ce soit avec les réseaux sociaux, c'est vrai, dans le négatif, mais aussi je pense que ça a été fait dans le positif.
Est-ce que dans ton parcours personnel, par exemple, tu as pu être confronté à ces questions-là de santé mentale ?
Bah, en vrai, enfin, moi j'ai quand même un petit background, comme on dit. Enfin, quand on était petit, mais après, ça, tout le monde l'a, quand on est un garçon, on nous dit de pas pleurer. Et forcément, quand on nous dit de pas pleurer, t'internalises.
T'intériorises.
Et du coup, t'intériorises. Et en fait, forcément, t'apprends pas vraiment à verbaliser ce que tu ressens. T'arrives pas à mettre les mots sur tes émotions, sur tes sentiments. Et ça, je pense que ça peut avoir des vraies répercussions sur la suite de ta vie. Surtout qu'il y a, encore une fois, ces stéréotypes qui prennent le pas sur le fait d'aller consulter un psychologue. Et donc... Moi, je pense sincèrement que c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Mais après, c'est avec l'éducation des parents, l'environnement social, à l'école aussi. Tu vas pleurer, on va dire « Ouais, t'es un gros bébé ». Non, non, c'est pas normal, ça, mais voilà.
Ça a été similaire de ton côté, David, ou pas du tout ?
Si, c'est très similaire. Je me souviens de mon père qui me disait de ne pas pleurer, même si parfois, il y avait des situations qui le demandaient ou c'était nécessaire. Mais je pense que c'est aussi quelque chose de très culturel et parfois religieux. Je sais que par exemple, si je décidais d'annoncer à mes parents que je consultais, ils seraient plus mécontents du fait que je décide de raconter mes problèmes entre guillemets à un inconnu plutôt qu'à Dieu.
D'accord. Et Fanta, de ton côté, est-ce que tu as pu identifier des mêmes problématiques dans l'éducation ou ça a été beaucoup plus tard peut-être ?
Moi en vrai ça va parce que j'ai grandi dans une famille où il y a énormément d'hommes. J'ai 6 oncles et seulement 2 tantes, mais j'aperçois quand même le poids psychologique des attentes genrées dès l'enfance, avec la pression d'être parfaite, calme ou responsable pour les filles, et cette injonction à la force et au silence pour les hommes et garçons, ce qui risque un peu pour leur santé mentale plus tard.
Parlons maintenant d'hypersensibilité, parce qu'on accuse souvent, nous les jeunes, d'être hypersensibles, mais finalement l'hypersensibilité c'est quoi ? On parle de quoi ? Est-ce qu'on parle du bien-être, le fait de prendre en compte le soi ? Une réaction peut-être, Anaëlle ?
Déjà, pour moi, l'hypersensibilité, c'est un mot qui n'est pas bien utilisé en parlant de la génération Z, parce que l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui doit être diagnostiqué. C'est pas quelque chose qu'on dit à tout va, c'est pas un mot qu'on utilise simplement. Alors que la sensibilité, ça par contre, c'est un terme qui pourrait du coup définir justement notre société, enfin notre génération, parce qu'on est plus ouvert sur divers sujets, on prend conscience de certaines choses que nos parents peut-être à l'époque n'avaient pas conscience, et du coup, oui, c'est plus sur la sensibilité, je pense.
Quand on reprend les chiffres, les données de Doctolib sur les jeunes, les 18-24 ans, dont 76% des patients sont donc des femmes, c'est des chiffres qui ne vont pas du tout dans le sens des hommes et dans le fait que finalement, nous, les hommes, on est un peu à l'écart de ces sujets-là et qu'on ne prend pas vraiment ça en considération.
C'est pas qu'on ne les prend pas en considération, c'est qu'on essaye de les ignorer dans le sens où un homme, quand il va se sentir mal intérieurement, Son premier réflexe, ce sera de penser que ça va passer, qu'il n'a pas besoin d'aide. Et c'est tout un travail sur soi déjà d'accepter qu'il a en effet besoin d'aide. Et à partir de là seulement, on pourra commencer à faire les démarches et à trouver les soins dont on a besoin.
Oui, bah ça c'est réel, hein, ça se ressent sur les chiffres. Par exemple, souvent quand les hommes ils font enfin le pas d'aller consulter, bah, c'est peut-être que le point de non-retour il est déjà atteint. Moi j'ai des stats de l'OMS, de l'Organisation Mondiale de la Santé, donc c'est-à-dire que en fait le taux de suicide HV, donc ça veut dire le taux de suicide qui va à son terme, donc ça veut dire avec la mort à la fin, il est 3 à 4 fois plus élevé que par rapport aux femmes. Donc c'est-à-dire que quand il décide de suicider, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini, ça veut dire que tout simplement il n'a pas réussi à faire le pas, enfin, d'aller voir un psychologue avant que ça ne soit trop tard et avant que... Voilà quoi, en fait il intériorise trop, on revient toujours dans le même sujet.
Et pour mettre un peu fin à ce débat, faisons peut-être un petit tour de table de votre ressenti personnel, savoir pour vous quelles seraient les solutions à mettre en place à l'avenir pour que déjà ces stéréotypes de genre soient moins marqués et pour que vous les hommes, vous puissiez être aussi pris en charge comme il faut sur ces questions-là. On commence par toi, Fanta.
Oui. Déjà, peut-être déconstruire cette fausse idée de la femme qui a besoin d'être aidée et de l'homme qui, lui, n'a pas besoin, qui est assez fort ou quoi que ce soit. Et accompagner les personnes, les écouter déjà, pour commencer, parce que s'écouter soi-même, tout simplement. Parce que si on ne va pas bien, on a le droit d'aller consulter, de demander de l'aide. Voilà.
Oui, c'est OK.
Ouais, vous êtes, c'est normal, d'accord.
Hein, tout respect. Donc, voilà.
Naël, peut-être une autre solution ou pareil ?
Après, je reviens sur ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut, comme elle a dit Fanta, déconstruire les stéréotypes qu'on a en fait et arrêter de faire les trends clean girl, salle de musculation, tout ça. Et dans les écoles, fac ou quoi, peut-être essayer de plus...
Sensibiliser.
De plus s'écouter avec une meilleure éducation, que ce soit à l'école, que ce soit chez soi. Et voilà, peut-être qu'on arrivera à faire des progrès.
Merci pour ce débat intéressant, vif. On a parlé donc de l'hypersensibilité, des questions de genre, et notamment les différences qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes. Faire en sorte que maintenant les hommes puissent aussi de leur côté se montrer un peu plus ouverts d'esprit et prendre en compte ces questions-là. Je vais passer la main à Redouane qui va poursuivre et conclure l'émission.
Gen Z, une jeunesse hypersensible.
L'émission des étudiants de Sorbonne Paris Nord.
Merci à toutes et à tous d'avoir d'abord participé. Je remercie mes confrères et sœurs d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie, vous, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cette émission sur Radio Campus Paris. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir vous abonner au Spotify de 13e Monde et à son réseau Instagram, @13e Monde, pour écouter l'ensemble de nos podcasts sur la Gen Z et leur révolte. J'espère avoir pu vous exposer un large panel de thérapies, de solutions pour se soigner mentalement, physiquement, et pouvoir prendre soin de soi. Au cas où, je le rappelle qu'il existe différents services comme des appels gratuits 24h/24, 7 jours sur 7 pour tous les âges, pas seulement la Gen Z, comme SOS Amitié au 09 72 39 40 50 en cas de détresse psychologique ou de celle d'un entourage. N'hésitez pas aussi à prendre soin de vous, profiter de vos proches, de votre famille, sortir, faire du sport comme nous l'a si bien dit Masten et Elio. Ne pourquoi pas prendre soin physiquement en mettant de la crème, comme nous l'a dit Emma et Nishta. Merci à tous. Au revoir.
Gen Z, une jeunesse hypersensible.
L'émission des étudiants de Sorbonne Paris Nord.
Ah, c'est trop bien. Trop fort.